Chapitre 14. Alors, retour de Bretagne, le marquis Orcella et sa femme s'occupèrent de préparer le mariage d'Ottavio. La comtesse Travaine accueillit les ouvertures avec empressement, Lisa donna très vite sa réponse affirmative et les fiançailles furent peu après célébrées au cours d'un congé que Silvio avait obtenu pour son beau-frère. La satisfaction que Ginevra éprouvait de ce côté se trouvait traversée d'inquiétude à cause de Cecca. L'amélioration légère constatée pendant les deux premières semaines du séjour en Bretagne n'avait pas persisté. De nouveau, la fillette continuait de s'affaiblir. Cédant à l'invitation faite avec instance par Silvio et son père, Donna Maria était venue s'installer avec sa fille à la Villa Orcella, afin que la malade jouît d'un air pur et du parfum balsamique des pins. Cecca, dès que le temps le permettait, passait ses journées au jardin. À mesure qu'elle perdait des forces, elle devenait plus gaie, plus causante qu'elle ne l'avait jamais été. Cet entrain inusité entretenait l'espoir chez sa mère. Mais Ginevra ne s'illusionnait pas. Mieux que Donna Maria, elle connaissait Cecca et elle devinait que l'enfant voyait venir la mort sans peur, presque avec joie. Étant donné cette inquiétude, Ginevra avait hâte de voir célébrer le mariage de son frère. Celui-ci était arrivé à la Villa Orcella 8 jours avant la cérémonie. Le marquis, en outre, offrait l'hospitalité à 2 cousins de sa femme, témoins du marié, et à Donna Teresa Alnuzzi, veuve d'un de ses parents à lui et cousine de Lisa Travaine. Donna Teresa était une jeune femme rousse et de belle taille, pas jolie, mais très élégante et très lancée. On vantait son esprit qui consistait à faire, par petites phrases sèches et impitoyables, la satire des faiblesses d'autrui. Elle cherchait un second mari qui ne se hâtait pas de se présenter car on la savait dépensière et d'humeur fantasque. Ginevra avait fait sa connaissance l'hiver précédent à Florence où Silvio et elle avaient passé quelques jours. Elle lui avait déplu et Thérèse, de son côté, la jalousait secrètement car elle avait rêvé d'épouser le marquis Orcella dont elle était éprise depuis longtemps et qui lui aurait donné la grande fortune convoitée. Sans connaître cette particularité, Ginevra avait l'intuition que l'antipathie ressentie par elle à l'égard de cette jeune femme était réciproque et sa présence à la villa pendant quelques jours lui causait un secret déplaisir. Avec ses hôtes, le va-et-vient occasionné par la cérémonie prochaine, les soins à donner à Cecca, Ginevra se trouvait fort occupée. Elle ne s'en plaignait pas. Sa peine secrète s'engourdissait mieux ainsi. Elle s'apercevait moins de la froideur de Silvio, elle s'étourdissait un peu par un entrain factice. Sa beauté, maintenant dans son plein épanouissement, lui attirait des hommages empressés qu'elle accueillait avec une dignité gracieuse. De tous ces hommes qu'il admirait, elle ne voyait qu'un seul, celui qui avait le droit de l'aimer et qui ne le voulait pas. La veille du mariage, comme elle revenait d'une courte promenade à travers les jardins, elle rencontra Teresa Alnuzzi. La jeune veuve portait une robe de drap violet qui moulait sa belle taille. Une étole de fourrure foncée couvrait ses épaules et faisait ressortir la blancheur du teint légèrement rousselé. Les deux femmes se serrèrent la main sans chaleur. Ginevra demanda « Vous faites votre promenade ?»« Mais oui !» Tous les matins, je m'y astreins, à Florence, pour déjouer les menaces d'embonpoint. Ici, c'est un délice. Même à l'automne, ces jardins sont merveilleux. » Elle se tut pendant quelques secondes, puis elle ajouta « Je viens de voir la chapelle funéraire. Je ne la connaissais pas encore, car je n'étais pas venue ici depuis le veuvage de Don Silvio. Elle est fort jolie, et quelle profusion de fleurs à l'intérieur !» J'avoue que je trouve admirable cette persistance dans le souvenir. » Ginevra dit, avec une imperceptible nuance d'ironie, « Elle n'est pas très habituelle, en effet. » Car nul n'ignorait que Donna Teresa supportait allègrement son veuvage, bien que le pauvre Alnuzzi eût été un mari très bon et très épris. La jeune femme déclara assez crûment, « Ma foi, c'est plutôt heureux. La vie ne serait plus possible s'il fallait se renfermer dans la désolation comme le fit trop longtemps Don Silvio. Il est vrai que cette blonde Hélène était ravissante. Je l'ai vue à Paris plusieurs fois. Leur petit hôtel de Passy était un vrai nid d'amoureux. » Ginevra eut un tressaillement de souffrance. En passant à Paris, au retour de Bretagne, Silvio ne l'avait pas conduite à cette demeure qui, elle le savait, lui appartenait toujours. Ils avaient occupé un appartement d'hôtel et le nid d'amoureux était demeuré clos sur le souvenir d'Hélène. Donna Thérèse, d'un coup d'œil en dessous, observait le beau visage qui restait calme. Ginevra portait ce matin une robe d'intérieur en souple lainage blanc à rayures mauves qui l'habillait délicieusement. Une fourrure au ton fauve glissait autour de ses épaules, de son buste élégant. La promenade avait fait courir sous son épiderme un sang plus vif et ses yeux avaient un éclat admirable. Thérèse pensa avec colère « Elle est belle, au moins autant que l'autre. Il doit l'aimer. Il a certainement oublié son Hélène et les fleurs ne sont là-bas que par habitude. » Méchamment, elle ajouta « Je n'aurais jamais cru que Don Silvio se remariât. Il fallait qu'il eût un bien vif désir de ne pas voir s'éteindre une vieille race. » C'était un désir très naturel et presque un devoir. Thérèse resta un instant stupéfaite de la tranquille indifférence avec laquelle Ginevra a prononcé ces paroles. Était-ce donc vrai ce qu'elle avait entendu dire, que cette belle marquise Orchella avait une âme froide, dépourvue de toute sensibilité, et que c'était pour ce motif que Don Silvio l'avait choisie, afin que l'amour n'existât pas entre eux? Allons donc, une âme froide, avec des yeux pareils, quel imbécile avait imaginé cela? Mais la marquise se montrait extraordinairement réservée à l'égard des étrangers, et Donna Thérèse avait déjà remarqué qu'elle éludait avec beaucoup d'aisance les questions ou allusions tant soit peu indiscrètes. Il en était ainsi aujourd'hui. La veuve se tint pour battue et cessa de parler d'Hélène en convenant à part elle que le sujet était brûlant. Après quelques propos sur le temps, sur la cérémonie du lendemain, les deux femmes se séparèrent. Ginevra revint vers le logis. Au rez-de-chaussée, les portes vitrées du cabinet de Silvio étaient ouvertes. La jeune femme se dirigea de ce côté. Elle avait un renseignement à demander au sujet du dîner qu'il donnait ce soir en l'honneur des époux de demain. Il fallait un motif de ce genre pour qu'elle pénétrât maintenant chez son mari, car elle ne voulait pas avoir l'air de s'imposer à lui, de le poursuivre dans sa retraite de travailleur, cet homme qui lui refusait silencieusement son amour. Son apparition, au seuil de la grande pièce boisée de chêne, fit légèrement sursauter Silvio, qui écrivait, penché sur son bureau. La tête levée, il la regarda s'avancer. Une émotion violente apparaissait dans son regard, faisait frémir ses lèvres, qui disaient machinalement « Ah, c'est vous, Ginevra ?»« Oui, mon ami, je vous demande pardon de vous déranger, mais je voulais savoir ce que vous décidiez au sujet des Ourmelli. » « Ah oui, les Ourmelli, c'est vrai. Asseyez-vous donc, Ginevra. » Il se levait, faisait le geste d'approcher un fauteuil. « Non, merci, il faut que j'aille vite à l'office. Qu'avez-vous décidé, Silvio ?» Il répondit en hésitant, comme s'il ne savait plus du tout de quoi il s'agissait. En fait, les Ourmelli étaient bien loin de sa pensée. Il regardait la jeune femme debout près de lui, si jolie dans cette toilette d'intérieur, d'une élégance simple et raffinée. Quel doux et ardent éclat avaient ses yeux ce matin! Comme son teint était délicatement rosé, et elle avait coiffé ses cheveux superbes aux souples ondulations naturelles de la manière qu'il préférait secrètement. « Eh bien, voyons, vous pourriez mettre le prince Ourmelli près de Donna Thérèse. » Il prolongeait son hésitation volontairement pour qu'elle demeurât là quelques instants de plus, pour qu'il pût s'enivrer pendant quelques minutes de cette beauté dont il fuyait le charme trop puissant à l'ordinaire. Ce matin, il sentait, avec un mélange de terreur et de joie, qu'il ne possédait plus sur lui-même sa maîtrise habituelle. Et la princesse, près du colonel Erled. Qu'en dites-vous? Il me semble que ce serait bien. Vous n'avez pas d'autres indications à me donner au sujet de la soirée? Mais non, je ne vois pas. Vous avez tout organisé avec tant d'intelligence, mon ami. Il lui prit la main. Son regard s'éclairait d'une chaude lueur, reflétait un peu de son admiration passionnée. Ginevra eut un tressaillement léger. Elle dit d'une voix basse et tremblante : C'est moi qui dois vous remercier d'agir avec tant de délicate générosité à l'égard de mon frère. » Qui est aussi le mien, Ginevra. Et pour Tchèque, vous êtes si bon. Je voudrais savoir vous exprimer toute ma reconnaissance. » Une tendresse contenue frémissait dans ses beaux yeux où se perdait le regard ébloui de Silvio. Celui-ci dit à mi-voix : Oh non, non, pas de reconnaissance de vous à moi. » Son bras s'étendit, entoura les épaules de la jeune femme. Le beau visage, palpitant d'émotion, était maintenant tout proche de ses lèvres. Celles-ci se posèrent sur le front, près des longues paupières ambrées qui s'abaissaient doucement. Elles s'y attardèrent, comme si elles ne pouvaient s'en détacher. Et leur chaud contact faisait frissonner Ginevra, tout éperdue de bonheur. « Vous vous montrez une fille si parfaite pour mon pauvre père, Ginevra. » C'est moi qui vous dois tant, qui ne saurais assez vous remercier. » Il se redressait, laissait tomber son bras, s'écartait un peu. Il semblait que son visage pâlissait, que l'ardeur de ses yeux s'éteignait. Il ajouta, et son accent redevenait froid, « Je serai toujours trop heureux de vous le prouver en m'associant à votre affection, à vos soucis pour tous les vôtres. » Et il se mit à parler de Tchèque, du léger espoir qu'avait donné le médecin hier. Sa physionomie se raidissait, ses paupières s'abaissaient sur ses yeux, qu'il détournait légèrement. Quand Ginevra fut sortie, il s'assit de nouveau à son bureau. Son visage tomba entre ses mains brûlantes. Il songea : Elle-même, j'essayais de me persuader qu'il n'en était rien, mais j'ai trop bien vu cet amour dans ses yeux tout à l'heure. Et moi qui ne peux pas, que vais-je faire ? Hélène, Hélène, pourquoi t'ai-je remplacée ? Voilà maintenant que ma vie est un tourment parce que je t'ai donné une rivale. Oui, tu peux me reprocher mon infidélité, ma chérie, ma pauvre chérie, car je suis assez faible pour l'aimer, presque autant que je t'ai aimée, mon Hélène. Mais, tu vois, je ne le lui ai pas dit. Je veux lutter jusqu'au bout pour que tu ne puisses pas me faire de reproches. Cependant, je ne voudrais pas la faire souffrir, elle. Alors, si un jour elle me demandait mon amour, tout mon amour, Hélène, tu me pardonnerais, n'est-ce pas ?